toujours fidèle au rendez-vous. Alors, un sujet de conférence quand même un petit peu pointu, mais c'est aussi le plaisir qu'on a aux Imaginales. C'est qu'on peut avoir des sujets extrêmement grand public. C'est entre autres pour ça qu'on a nos Magic Mirrors. Et puis, on peut avoir des petits déjeuners le matin intimes avec Robin Hobb, excusez du peu. On peut avoir, comme hier, un déjeuner à midi avec Charlotte Bousquet, 18 participants, un beau succès pour une jeune auteure débutante, mais pleine de talent. Et puis, on peut décider d'inviter Aliette de Bodard au vu de... Il y a un roman. Mais à l'époque, quand j'ai décidé de l'inviter, que je l'ai contactée, je n'avais lu simplement qu'une nouvelle. Je n'avais lu qu'une nouvelle, mais je l'avais trouvée suffisamment intéressante pour m'intéresser déjà donc, à ce que faisait Aliette. Et puis, j'avais eu l'occasion ensuite de voir, avant qu'elle soit publiée, elle le sera dans quelques semaines, une deuxième nouvelle, et puis après le roman est arrivé. Et je me suis donc intéressé au parcours un peu atypique et étonnant d'Aliette, qui est une auteure française et qui a commencé sa carrière en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors ça, quand même, c'est pas courant. J'ai croisé tout à l'heure, il courait vers le Magic Mirror 2, Pierre Peuvel, auteur français, nancéien, fidèle des Imaginales, deux prix Imaginales, des lycéens et prix tout court, qui, lui, est aujourd'hui traduit en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est la porte pour les États-Unis et l'Australie. Mais c'est déjà brillant, c'est déjà novateur, c'est le travail de son éditeur Bragelonne, mais c'est aussi logique. C'est que finalement, même si ça ne se fait pas souvent dans ce sens-là, on traduit un roman de la langue originale. Là, Aliette a fait, d'abord elle en a les capacités, déjà félicitations, mais quand ce n'est pas sa langue natale, mais elle a fait le choix d'écrire en anglais. Et ces livres-là, c'est amusant, sont traduits de l'anglais. C'est quand même un exercice original. Alors la première question toute bête, Aliette, c'est qu'est-ce qui vous a donné cette idée quand même rare chez les auteurs français d'écrire en anglais et d'essayer de vendre vos textes dans le monde anglo-saxon?
Moi j'ai découvert tout ce qui était science-fiction et fantasy en tant que genre littéraire pendant que j'habitais au Royaume-Uni. Donc j'ai essentiellement commencé à lire de façon fort boulimique par ailleurs tous les textes fondateurs de la SF en langue anglaise. Donc quand je me suis mise à écrire, à décider d'écrire de la science-fiction et de la fantasy à mon tour, ça m'a paru assez naturel de continuer en anglais. Je me suis posé brièvement la question de si jamais c'était une bonne idée ou pas, étant donné que l'anglais n'était pas ma langue maternelle et que ça risquait de se voir. Je me suis dit, bon, si ça marche pas, on pourra toujours se recycler en français. Et puis, tout réapprendre, en fait, parce que c'est quand même assez différent en anglais et en français. Et puis, bon, ça a mis un peu de temps à se faire, mais ça a marché. Donc depuis, je ne me suis jamais vraiment reposé la question.
Par curiosité quand même, vous étiez en Angleterre, sans être trop curieuse. Pourquoi, si ce n'est pas intime, et quelle formation vous avez?
J'avais 15 ans, 16 ans, et mon père a été muté au Royaume-Uni, donc on a toute la famille a déménagé au Royaume-Uni. Et c'est là que j'ai principalement commencé à tourner en rond, parce que le programme scolaire était beaucoup moins intensif en temps au Royaume-Uni, donc j'ai commencé à me chercher des loisirs. J'ai essayé la guitare, j'étais une musicienne absolument catastrophique, et j'ai commencé à lire beaucoup, puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était écriture dans la foulée. Il y avait une deuxième question, c'était...
Non, c'était sur votre formation.
D'accord.
Voilà, et vous avez poursuivi des études néanmoins?
Oui, j'ai poursuivi des études, donc je les ai poursuivies en France, j'ai fait des classes préparatoires, puis j'ai intégré une école d'ingénieur. Je suis assez scientifique de formation, en fait, donc ce qui explique que dans mes textes, je ne m'intéresse pas énormément à la science, parce que j'en fais plus de 35 heures par semaine. J'essaie de me distraire un peu avec tout ce qui est contexte historique, contexte mythologique, avec un petit saupoudrage de science éventuellement pour mettre l'ambiance, mais il y a certains écrivains qui font des choses vraiment très pointues au niveau scientifique. Moi, ça me rappelle trop ce que je fais dans la journée.
Rappelle le travail. Alors, commencez à envoyer vos textes. Le premier texte qui était publié, c'est dans quelle revue? C'est en revue, j'imagine.
C'était dans une toute petite revue qui n'existe plus depuis, qui s'appelait Deep Magic, qui était un fanzine publié en version PDF, qui payait, je ne me souviens pas énormément, mais qui payait quand même. J'ai eu mon premier paiement en dollars, ça fait bizarre. Et il a été publié, ça devait être en 2005-2006.
Et ensuite ?
Ensuite, je m'étais fixé comme objectif de faire un effort pour soumettre tous les 3 mois. Il y a un concours qui s'appelle Writers of the Future aux États-Unis, donc qui a été fondé par Elrond Hubbard et qui a lancé pas mal d'écrivains de SF et qui est jugé par les grands comme Orson Scott Card, Tim Powers, K.D. Wentworth. Et donc, je ne sais plus qui, quelqu'un m'avait recommandé d'essayer de gagner Writers of the Future. Et je me suis dit, bon, à défaut de gagner, qui est quelque chose que je ne peux pas contrôler, je peux au moins essayer d'avoir un texte qui soit prêt tous les 3 mois pour l'envoyer à Writers of the Future. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc au début, j'ai eu ce qu'ils appellent des honorable mentions. Donc c'est les gens qui se remarquent un petit peu, mais qui ne sont pas excessivement novateur. Après, j'ai fait demi-finaliste, puis finaliste, et puis un beau matin de novembre, j'ai un message sur mon téléphone portable avec Hello, c'est Jody, l'administratrice de Writers of the Future. Est-ce que vous pourriez me rappeler, vous avez gagné la 2e place à Writers of the Future. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre pendant un moment, et c'était le 1er novembre, c'était impossible de la joindre après. Donc pendant 2 jours, j'étais dans un état assez second. Et en fait, l'avantage de Writers of the Future, c'est qu'ils vous payent l'aller-retour aux États-Unis pour aller assister à des cours d'écriture. Donc je suis allée l'été 2007, donc où j'ai eu une semaine de cours où il y a eu Tim Powers, Charles Brown, qui est l'éditeur de Locus.
Rien que ça.
Qui était encore en vie à l'époque. Et puis, il y a évidemment la cérémonie de remise des prix qui fait beaucoup de bien à l'ego, mais je pense que la valeur majeure que j'en ai retenue, c'est surtout tout ce qui a été les cours et puis tout ce qui a été possibilité de socialiser avec des gens en fait, qui étaient à peu près au même niveau que moi et avec lesquels je suis restée en contact.
Donc c'est un prix finalement qui est une ouverture sur le milieu de l'édition et de la science-fiction anglo-saxonne et en particulier américaine. Je connais bien évidemment, c'est un prix qui est réputé, c'est vrai, même si on connaît peu en France, quand on est professionnel, on le connaît, on sait le nombre d'auteurs importants qui ont été révélés par ce prix. Mais c'est pas un prix en argent, c'est un prix, il y a un chèque encore à la clé en plus.
Il y a un chèque encore à la clé en plus, oui.
Incroyable. Un billet d'avion, un chèque, une semaine d'écriture voilà, avec les plus grands, c'est pas mal quand même pour un début de carrière.
Voilà, c'est un début de carrière très, très sympathique.
Et ensuite, est-ce que vous avez essayé et réussi à publier dans les revues, les magazines qui comptent dans le milieu de la science-fiction, qui compris les professionnels français connaissent, lisent ou dont ils entendent parler, c'est-à-dire Interzone en Grande-Bretagne et puis Asimov en particulier et peut-être d'autres aux États-Unis.
Mais en fait, essentiellement, suite à Writers of the Future, ça m'a permis de joindre un groupe de néo-professionnels qui avait été fondé par quelqu'un qui lui-même était sorti Writers of the Future, donc où le critère est d'avoir fait soit un cours d'écriture majeur, soit d'avoir eu des publications, ce qu'ils appellent professionnelles, c'est-à-dire d'un certain niveau, dans Interzone, dans Asimov, dans Fantasy and Science Fiction. Et parmi quelqu'un m'avait donné comme conseil c'est pas compliqué, t'as un texte, tu commences par le haut de l'échelle et puis tu descends jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui te le prenne. Donc j'ai bien évidemment commencé par Asimov. Le problème d'Asimov, c'était le coût de tout ce qui était timbre, et à l'époque aussi le coût de... Il fallait mettre des coupons réponses internationaux. Depuis, ils ont fait beaucoup de progrès et ils sont passés à des soumissions par email, ce qui rend la vie plus facile quand même aux gens qui habitent à l'étranger. Mais à l'époque, c'était tout un cirque, parce qu'il fallait que j'aille au bureau de poste, que je fasse la queue, que je leur explique ce que c'était qu'un coupon en réponse internationale, parfois dans certains bureaux de poste. Ça, je m'en souviens assez nettement. Et en parallèle, j'avais essayé Interzone, parce qu'Interzone, à l'époque, avait Jesse De Vries qui s'occupait de tout ce qui était soumission par email. Et donc, je me suis dit, bon, là, l'email, c'est quand même nettement plus facile. Je lui ai envoyé un texte, à peu près, c'était un petit peu avant que j'apprenne de gagner Writers of the Future, en fait. Il m'a renvoyé un petit mot très gentil, comme quoi il avait lu, qu'il allait le forwarder à son éditeur à lui, qui allait prendre une décision. Et puis, tout petit peu, je ne sais plus si c'est avant ou après Writers of the Future, mais à peu près simultanément, il m'a renvoyé un message avec « écoute, on va l'apprendre ». Et puis ils m'en ont pris une deuxième, ils l'ont aussi publié. Et du jour au lendemain, du coup, je me suis retrouvée connue dans les milieux professionnels au Royaume-Uni. En fait, je suis allée à une convention à Londres en 2008 et tout le monde était là. J'ai lu ta nouvelle dans Interzone, j'ai vachement apprécié. Et moi, tout d'un coup, j'étais là. Oula, mais... en fait, il y a plein de gens qui lisent Interzone. J'étais pas forcément consciente de la diffusion du magazine à l'époque. Et puis après, j'ai continué à envoyer. Asimov, il m'a fallu très longtemps. La première vente que j'ai fait à Asimov était en 2009 ou quelque chose comme ça, alors que ça faisait facilement 4 ou 5 ans que je soumettais des textes et que régulièrement chez la Williams, on m'envoyait des petits mots avec non, pas celle-là. Mais j'ai vendu à des magazines comme Fantasy Magazine, qui a été fondé par Sean Wallace. Realms of Fantasy, et puis quelques anthologies aussi, comme Shine, qui était une anthologie de science-fiction optimiste, qui est sortie il y a un an, je crois. Et donc, petit à petit, en fait, je suis grimpée dans l'échelle des marchés qui prenaient mes textes et qui voulaient bien publier mes textes. Et c'est devenu de plus en plus facile, et puis j'ai aussi commencé à me faire un nom, à être connue, et en parallèle à, de par le groupe d'écrivains dans lequel j'étais, de pouvoir en fait connaître des gens par internet il y a un milieu qui se passe le mot, il y a telle anthologie qui va ouvrir et ils cherchent des textes, il faudrait l'envoyer à telle adresse si ça t'intéresse. J'ai plus quelques personnes qui ont commencé à me solliciter pour les textes, c'est nouveau. Ça c'est fait.
Circuit professionnel classique, mais encore une fois, auteure française et le circuit qui lui ouvre les bras, même si c'est le travail fondamentalement qui l'a permis, c'est les revues anglaises, américaines. Alors, il y a une légende quand même en France, qui est une légende urbaine, je plaisante, qui a couru pendant un nombre d'années incroyables, qui était de dire que les Anglais, les Américains n'aimaient pas nos textes, n'aimaient pas nos auteurs, ça servait à rien si on était français, on n'avait aucune chance. Or, visiblement, et vous en êtes pas la première, mais en tout cas, en particulier aux États-Unis, un exemple. On l'avait vécu de façon plus marginale avec Jean-Claude Dunac et Ayerdal, qui avaient eu des nouvelles publiées dans Interzone. Et je crois que c'était Ayerdal qui avait d'ailleurs gagné une année, en tout cas c'était, je crois que c'était Ayerdal, il me semble, Jean-Claude, en tout cas, je crois que c'est Ayerdal, qui avait gagné le prix de la meilleure nouvelle de l'année selon les lecteurs de la revue Interzone. Donc, Jean-Claude peut-être, c'est Jean-Claude Dunerc, voilà, qui avait donc gagné ce prix, ce qui veut dire que, on commençait à le soupçonner, mais avec Aliette on a la preuve, c'est visiblement le barrage, c'est pas du tout un barrage national, nationalité, c'est un barrage de langue.
Oui, c'est essentiellement un barrage de langue. En fait, on le sait très bien que ça marche essentiellement que dans un sens, hein, que les Anglais sont traduits en français, mais que le contraire se fait rarement. Je crois que c'est 0,4%, quelque chose comme ça. J'ai dû faire des statistiques pour un article que j'ai écrit pour Asimov et j'ai été effarée. Je ne pensais pas que c'était à ce point, mais... il y a un barrage de langue, et après c'est vrai que bon, il y a des sensibilités qui sont un petit peu différentes aussi, donc ça va pas mal dépendre des histoires et ça va pas mal dépendre des magazines de s'ils pensent que ça conviendrait à leur lectorat ou pas. Je sais que si j'ai des textes qui sont expérimentaux et où la science, où c'est pas forcément de la hard science, je les adresserai pas à Analogue, peut-être même pas à Asimov, et que je préférerais Interzone. Il y a des publications qui ont des identités marquées, puis il y en a qui ont des sensibilités qui sont plus ou moins sympathiques vis-à-vis des sensibilités françaises.
Ça, c'est peut-être aussi simplement une connaissance du marché, je dirais. Alors maintenant, après on voit bien comment capacité d'écrire en anglais, ce qui n'est même pas si fréquent. Déjà, le faire traduire, parce que faire traduire, ça coûte cher. Et l'idée de faire traduire sa propre nouvelle, financer la traduction en anglais, de façon à ce qu'il ait une petite chance, 0,4 de conquérir le marché anglo-saxon, ça n'est pas très évident. Il y a un petit problème de son, ce qui se passe. Bon, on a une rupture de son, comme il n'y a personne, on va se passer le micro.
Celui-là marche encore.
Oui, celui-là marche encore. Donc je disais que on voit bien que la barrière, c'est celle de la langue. C'est un problème de coût, Si on n'est pas capable d'écrire soi-même en anglais, ce qui est quand même rarissime chez les auteurs français, eh ben on est obligé de passer par la traduction, mais simplement pour soumettre. Voilà, donc on voit tout de suite quel est l'enjeu. Sauf que si un auteur maîtrise la langue, il est traité à égalité. Pas mieux, mais visiblement pas plus mal. Et le cas d'Aliette le démontre. Alors maintenant, après avoir publié des nouvelles, on voit bien que maintenant elle est dans le circuit, c'est-à-dire qu'elle est connue par ses pairs. Il y en a même qui doivent lui dire que ses nouvelles et c'est la vérité sont super chouettes. Et puis aussi, le fait que quand on est dans le circuit, et peu importe que le milieu soit francophone ou anglais-américain, ben finalement, c'est des collègues, ils vous passent en effet les infos pour participer aux anthologies, et comme le disait tout à l'heure Aliette, on est sollicité pour, voilà, pour faire... Et ça, c'est qu'on est déjà un auteur reconnu. Même quand on est encore un jeune auteur, c'est déjà qu'on est reconnu comme étant capable de fournir à la demande un texte de qualité. Parce qu'on sait bien que quand on est anthologiste, on a la possibilité de refuser un texte, ça m'est arrivé pour les anthologies imaginales, mais c'est quand même des gens qu'on estime, des gens qu'on apprécie, parfois des amis, on le fait, mais c'est toujours un peu difficile et délicat, parce qu'en gros, même si on a cette liberté de refuser, il y a quand même une sorte de deal tacite qui est que sauf s'il y a un ratage, on prend la nouvelle puisqu'on l'a commandée, c'est quand même déjà une probabilité très forte de publier le texte. Donc, c'est qu'on ne prend pas le risque avec n'importe quel auteur. Voilà, y compris un auteur qui accepte de retravailler, puisque c'est la règle. Comment, à partir de ce socle, de cette reconnaissance, comme nouvelliste à part entière, comment réagissent les autres auteurs américains, les anthologistes, vis-à-vis de vous, en sachant que vous étiez une auteure française ?
Enfin, moi, j'ai jamais remarqué particulièrement. Enfin, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont surpris d'apprendre que je suis française. J'ai plutôt le phénomène inverse, qu'il y a des gens qui après avoir appris que je suis française se plaignent a posteriori de l'anglais en disant qu'un anglophone n'aurait jamais écrit ça, ce qui me fait bien rigoler. Personnellement, moi, ils trouvent ça amusant, ils trouvent ça une curiosité, mais il n'y a pas particulièrement de discrimination, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a des auteurs comme ça. Je suis une des seules francophones, mais je ne suis pas non plus la seule. L'anglais n'est pas forcément la première langue. En particulier, il y a un petit groupe de néerlandais qui eux aussi écrivent en anglais et qui ont gagné Writers of the Future, qui ont été publiés professionnellement. Donc ça commence à s'ouvrir un petit peu à tout ce genre de choses. Puis évidemment, il y a aussi des immigrants tout frais aux États-Unis qui n'ont pas forcément non plus beaucoup plus de facilité avec la langue et qui, je pense, doivent avoir le même genre de problème, même si chez eux, ça va être un petit peu facilité par l'immersion locale. Non, ça n'a pas de particularité.
Le passage au roman. Le passage au roman, comment ça s'est fait parce que bon, voilà, vous aviez commencé à construire une carrière, être reconnu, à publier des nouvelles, en revue, en anthologie, voilà, faire partie du paysage anglo-saxon, anglais et américain. Pas encore de publication en Australie ?
Si, le roman.
Ah, alors justement, le roman. Le premier roman, comment ça vous vient et comment vous le soumettez à des éditeurs anglo-saxons ?
Premier roman, on va dire premier roman potable, parce que derrière il y en a un certain nombre de non avouables, non avoués, et donc certains se sont perdus dans des déménagements. À ma grande joie, ça veut dire qu'on ne pourra jamais les sortir plus tard. Le premier roman vraiment donc, que j'ai écrit, dans une optique professionnelle, donc je suis rentrée de Writers of the Future, et comme très souvent avec ces cours-là, en fait, j'ai fait une petite saturation pendant la semaine, et le temps que j'emmagasine tout ce que j'avais appris pendant le week-end, j'étais incapable d'écrire. Je sais que les gens qui sont allés à Clarion, qui sont les gros ateliers de 6 semaines, ça arrive qu'il y en a qui arrêtent d'écrire pendant un an, le temps que ça bouillonne et le temps qu'ils reprennent le fil de ce qu'ils faisaient avant. Moi, ça a été 2 ou 3 mois où vraiment impossible de produire quoi que ce soit. Je commençais quelque chose, j'arrêtais immédiatement. Il ne faut pas que je fasse ça. On m'a dit de faire autre chose, etc. Et au bout de 2 mois, j'en ai vraiment eu marre. Je me suis dit, quand même, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que là, j'en peux plus, je ne suis pas du tout productive. Et je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de changer de longueur. Je me suis dit, bon, je vais faire un roman. J'étais juste sortie de Writers of the Future, en fait j'ai repris le personnage et l'univers que j'avais créé dans la nouvelle qui avait été publiée dans Writers of the Future. Donc à l'époque, dans la nouvelle, mon personnage était un petit prêtre insignifiant dans l'Empire aztèque. Et je me suis dit que j'allais écrire un roman policier à grande échelle avec de la magie. Je me suis pas mal documentée, j'ai acquis une pile de livres sur l'Empire aztèque, j'ai commencé à me localiser plus précisément dans l'histoire, j'en ai discuté avec pas mal de gens, et puis bon, je me suis dit que j'allais. Ma façon de travailler, c'est assez directive, donc j'ai d'abord commencé par écrire un résumé, puis après, je me suis basée sur le résumé pour produire le roman. Bon, après, j'ai fait le circuit classique, hein, bêta lecteur, 2 ou 3 rounds de correction, histoire que ça tienne un peu debout. Et alors, dans le milieu anglo-saxon, c'est un peu plus fermé, il y a un intermédiaire supplémentaire, donc, qui sont les agents littéraires. Et c'est possible de faire sans. Le souci de faire sans, c'est qu'il faut être prêt à des temps d'attente très longs. Pour Thor, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans. Ils postent régulièrement des photos de leurs piles de manuscrits qui envahissent les bureaux et sur lesquels évidemment ils ne sont pas particulièrement pressés parce qu'il n'y a pas d'agents avec lesquels ils aient des relations professionnelles, c'est juste des auteurs, donc c'est bon, on peut les oublier. Donc je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un agent parce que je n'ai pas la patience d'attendre 2-3 ans pour savoir si quelqu'un veut un manuscrit. Donc la façon d'avoir un agent, c'est, alors ça dépend aussi beaucoup des agents, mais c'est d'écrire une petite lettre de présentation avec la présentation du roman et puis la présentation de qui vous êtes, de quels sont vos crédits de publication. J'en ai envoyé à peu près 4 ou 5 à des agents qui me paraissaient avoir des clients qui avaient les mêmes sensibilités que les miennes. Tout est revenu en rejet, bon, c'est fait. Parfois, ils demandent aussi les premiers chapitres du roman pour aller avec. Et moi, je les avais tous choisis par email parce que le souci, c'est que je ne voulais pas avoir envoyé 700 pages de manuscrits en double espace courrier news. Ça fait une pile comme ça de choses envoyées aux États-Unis. Ça va, merci, j'ai donné sur la poste. Et ça a une période d'à peu près un an où j'écrivais régulièrement des petites lettres à des agents et où ils me disaient très poliment « vous êtes plutôt gentil, mais on n'en veut pas ». Et puis je suis, sur le conseil d'amis, je suis allée à World Fantasy, qui est la grosse convention de fantasy aux États-Unis, qui est essentiellement orientée professionnelle. Et, plus originellement dans l'idée de retrouver des amis, de passer du bon temps. Et puis un soir, la veille de partir au bar, je croise quelqu'un qui me donne sa carte de visite et qui me fait « Écoute, Machin m'a parlé de toi », Machin étant quelqu'un que j'avais jamais vu de ma vie, que je connaissais par internet. Je fonde une agence littéraire, si jamais ça t'intéresse. J'ai pris la carte. Ce serait probablement peut-être, enfin je sais pas comment ça se serait passé en fait, mais le hasard du sort a voulu que sur le vol de retour, c'était à Calgary, et le vol de retour Calgary-Londres a été annulé. Et on s'est retrouvés dans un lobby d'un hôtel de merde dans les banlieues de Calgary, perdu au milieu de nulle part où il n'y avait vraiment rien à faire, avec moi, la personne qui m'avait donné sa carte de visite et la personne qui voyageait avec elle. On commence à engager la conversation et puis il s'avère que l'autre personne était un éditeur qui allait fonder sa maison d'édition sous la houlette de HarperCollins. Et puis de fil en aiguille, ils ont fini par me convaincre d'essayer de leur proposer le roman. Donc passé le premier instant de panique, j'ai essayé de leur expliquer en 2-3 mots de quoi il retournait. Et à la fin, il m'a donné sa carte et il m'a dit « Écoute, si jamais ça t'intéresse ». Je suis rentrée à la maison, j'ai re-regardé le roman, j'ai fait « Oui, mais dans cet état, c'est pas une bonne idée. Visiblement, les premiers chapitres, ça marchait jamais quand je les envoyais à des agents, donc il doit y avoir un problème. Donc j'ai tout repris. J'ai failli rater mon avion de retour, d'ailleurs, pour Paris, Charles de Gaulle depuis Londres, parce que j'étais trop occupée à écrire le premier chapitre. C'est une bonne raison, mais bon, je commençais à être un peu fatiguée. On en était à un jour et demi de retard. Je suis arrivée à Charles de Gaulle, ils avaient perdu mes bagages, donc vraiment, j'avais la sensation que c'était un ratage complet, là. Et donc, je me suis dépêchée d'envoyer les textes en me disant « faut battre le fer pendant qu'il est chaud ». À peu près 2 mois plus tard, l'éditeur, qui m'avait demandé originellement les 5 premiers chapitres, me renvoie un mail en me disant « est-ce que je pourrais avoir le manuscrit complet ?» Et l'agent fait pareil. Donc, je le renvoie à tous les deux. Et puis, l'agent me renvoie un mail en premier en me disant « écoute, je suis intéressée, mais faudrait qu'on se parle niveau marketing. Je suis pas exactement sûre que ça rentre dans ce qu'on fasse, donc si tu peux me rappeler. » Et à peu près 2 jours plus tard, pendant que j'étais encore en train d'essayer de me décider si je voulais le rappeler ou pas, l'éditeur « écoute, nous, ça nous intéresse beaucoup, on voudrait te faire une offre. Est-ce que tu as un agent ?» Je lui ai envoyé un mail « non, mais attends 2 minutes, je pense que ça peut-être se faire. » Et donc, je suis re-rentrée en contact avec l'agent en lui disant « regarde le mail. » Et donc voilà.
Et donc cet éditeur, je vais y arriver. Et donc cet éditeur, faut nous en dire un petit peu plus. Alors donc c'était en Grande-Bretagne ou en Australie?
C'était, en fait, c'était en Grande-Bretagne. C'était en fait, il s'appelait, enfin, il s'appelle toujours Marc Gascoigne, et il avait travaillé pendant de nombreuses années chez Solaris, qui était sous la houlette de. J'ai oublié comment ils s'appellent, mais ils sont un gros éditeur de tout ce qui est jeux de rôle au Royaume-Uni. Et il avait fondé une collection de SF qui publiait simultanément au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui à l'époque était une grosse nouveauté, parce que c'était dans les années, à la fin des années 90, et il n'y avait pas de... Enfin, tout était vachement très très séparé entre les territoires, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et il avait perdu son travail chez ses éditeurs, et donc il avait proposé à HarperCollins de proposer de faire une nouvelle collection qui serait plus orientée sur l'ASF de la nouvelle génération. Et donc il voulait publier des auteurs qui n'étaient pas forcément encore très connus, mais qui avaient des voix relativement nouvelles et relativement différentes de ce qui se faisait dans le milieu du Royaume-Uni et des États-Unis. Et il prévoyait de faire un lancement simultané sur tous les territoires anglophones, donc Royaume-Uni, États-Unis et Australie. Bon, finalement, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas quelques petits obstacles en travers. HarperCollins s'est malheureusement séparé de la collection un an à peine après l'avoir fondée. Alors je ne sais pas pourquoi, ça doit faire partie de ses secrets. qui ne se disent pas. Il faut m'excuser, de temps en temps j'ai les mots qui me viennent en anglais et je ne sais pas comment les traduire, donc il y a un moment de pause pendant que je réfléchis. Donc la collection est repassée sous la houlette d'Osprey, de Random House, et c'est comme ça qu'ils ont lancé aux États-Unis. Donc les bouquins sont parus aux États-Unis un an après être parus en Australie et au Royaume-Uni en fin 2010, et depuis ils sont en fait en parution simultanée au Royaume-Uni et États-Unis.
Vous avez publié combien de romans dans le monde anglo-saxon? Là, c'est le premier hein, qui donc vient d'être traduit en français.
J'en ai publié deux, donc celui-ci et le suivant qui est Harbinger of the Storm, qui est dans le même milieu en fait, avec les mêmes personnages, mais en fait faut penser à ça comme une série de romans policiers, c'est-à-dire que les intrigues à chaque fois se tiennent et c'est pas vraiment une trilogie au sens fantasy ou les romans ont aucun sens si vous essayez de lire juste un tome. J'avais signé pour 3, donc avec Angry Robot, et je leur ai rendu le troisième il y a 2 mois, qui devrait paraître à la fin de l'année 2011.
Publication en anglais, publication en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Comment ça s'est fait, la traduction en français?
Assez simplement en fait, Marc avait l'habitude de travailler avec Mathieu Saint-Toux dans sa précédente identité avec Solaris, et Mathieu l'avait contacté, il avait regardé le catalogue de Angry Robot et il avait trouvé un certain nombre de livres qui l'intéressaient, dont celui-là. Et mon agent avait insisté pour garder les droits français en se disant qu'ils arriveraient à avoir un meilleur deal en fait, eux, s'ils pouvaient en fait, quand j'ai vendu à Angry Robot, j'ai quand même vendu les droits dans l'univers, donc des fois qu'on colonise Mars, c'est bon, ils ont aussi les droits.
On en parlait ce matin avec Emmanuel Pira.
Oui, oui, mais apparemment c'est les contrats nouvelle mode, donc dans l'univers sauf la France et la Chine. Allez savoir pourquoi. Et donc il m'a contacté directement en fait pour que je leur réfère à mon agent pour savoir si il serait intéressé pour vendre les droits en France. Et finalement ça s'est fait 2009, enfin, je ne sais plus exactement quand, il y a un certain temps. Et à ce moment-là, ils ont commencé. Je leur avais dit qu'en fait je voulais pas faire la traduction parce que il y a écrire en anglais, écrire en français et traduire, et c'est vraiment trois choses différentes. Moi je ne sais faire que l'écriture en anglais. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est de donner la traduction à quelqu'un d'autre et après que je relise la traduction par derrière pour voir si j'avais des choses à rajouter. Et donc ils ont donné la traduction à Laurent Philibert Caya et on a commencé en fait, on a beaucoup discuté pendant que lui traduisait pour que je lui donne un coup de main pour tout ce qui était terminologie, pour tout ce qui était éviter les contresens, enfin les choses assez classiques je pense. Et après j'ai eu un gros pavé sur mon bureau de traduction à relire et à noter pour savoir s'il y avait des choses qui me choquaient ou pas. Et dans l'ensemble c'était pas mal des problèmes de terminologie, c'est pas vraiment que c'était des choix incorrects, c'est plus que moi j'aurais pas dit ça en tant qu'auteur et donc j'aurais préféré que ce soit formulé de cette façon là.
Et puis les nouvelles aussi traduites en français, puisque donc il y a deux nouvelles qui, enfin trois qui sont, deux qui sont parues et une troisième qui va apparaître, donc vous pourrez trouver aussi une nouvelle du même cycle qui parle aussi d'Empire Aztèque, vous la trouverez donc dans le numéro de Galaxy qui est sur le stand après la buvette. Le prochain numéro de la revue de science-fiction, donc Galaxy, publiera une nouvelle encore d'Aliette de Godard, je sais que la traduction est finie, et elle a été publiée aussi par Angle Mort, revue électronique de science-fiction, comme quoi les nouveaux modes aussi de production, c'est aussi l'occasion de publier des auteurs sous un autre format que le format livre-papier. Je crois qu'on a déjà fait un bon tour, mais de la question. Je pense qu'il y a surtout maintenant des questions de la salle. Ça aurait été mieux si j'avais eu le micro, mais visiblement j'ai un petit souci. Je vais essayer de demander si vous me pardonnez, je ne le fais pas d'habitude, mais visiblement les SMS n'arrivent pas rapidement. Les réseaux mobiles nous demandent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas toujours très efficaces. Alors en direct, j'ai appelé directement pour qu'on essaie de nous réparer quand même le micro. Ce serait quand même beaucoup plus pratique d'avoir le micro mobile pour poser des questions. En attendant que je puisse contacter la technique, est-ce que évidemment Lionel Davoust accepte de venir parler au micro ici? Parce que sinon la salle n'entend pas la question. Et c'est ça le problème.
Mais donc, je suppose que tu vis en France. Est-ce que ça ne te pose pas un problème vis-à-vis du lecteur anglais de ne pas être sur place pour faire les salons, les dédicaces, les festivals, etc.?
J'ai jamais eu de problème. Après, je pense que effectivement, je suis moins présente, donc je sais pas comment ça se traduit en termes de vente, parce que bon, moi, j'aurais pas de retour sur la vente de mes romans avant un an, le temps que aux États-Unis les livres sont en prêt. En fait, les librairies les prennent à crédit, et si jamais au bout d'un an ils les ont pas vendus, bah, ils les rendent à l'éditeur. Donc il faut toujours un certain temps pour savoir ce qui s'est réellement passé vis-à-vis de ce que l'éditeur dit avoir sorti. C'est vrai que pour tout ce qui est je dirais plus, c'est plus pour tout ce qui est socialisation avec les autres écrivains que ça me pose des soucis. Donc j'essaye d'aller tous les ans à EasterCon ou à des conventions anglaises histoire de maintenir les contacts. C'est plus vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de propositions d'anthologie, beaucoup de rencontres avec des éditeurs, enfin, c'est partout pareil, hein, qui se font au hasard d'un salon. Donc il y a une partie significative de ce que je reçois en tant qu'écrivain qui repart quasiment tout de suite dans des frais de voyage.
Est-ce que vous avez une petite idée, parce que ça c'est pas, j'imagine, un gros secret, des premiers chiffres de vente en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis de votre premier roman?
Alors c'est pas un grand secret, mais il s'avère que c'est vachement compliqué. Non, je ne sais pas, parce que quand ils ont transféré de HarperCollins vers Osprey, ils ont apparemment eu des problèmes de paperasse qu'ils sont toujours en train de résoudre. Ou alors c'est une excuse pour pas me les donner, parce qu'ils ont été vraiment catastrophiques et ils voudraient bien que je finisse la trilogie quand même, mais...
Vous payez vos droits quand même. Bon, en attendant le chiffre définitif. Mais c'est quand même. Est-ce que ce sont des chiffres semblables à peu près à ce qui se font en France, sans rentrer dans le détail? Ou est-ce que vraiment, avec un marché aussi important, les chiffres de vente feraient quand même déjà beaucoup de plaisir à un auteur français?
Ce que je peux vous dire, c'est aux États-Unis, je vois à peu près une cinquantaine de copies par semaine. Donc si ça se maintient, ça fait pas énormément, ça fait. 3000, 4000 copies par an, je sais, j'ai aucune idée de ce qui correspond à une bonne vente en France. Ça fait plaisir, d'accord. Mais enfin, bon, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles de population quand même. C'est quoi en France? Face à, d'accord.
Je dirais une moitié au moins.
Ouais, d'accord. Mais les avances doivent pas être les mêmes, je sais pas, parce que mon agent avait l'air de dire quand même qu'il pensait pas que je regagnerais mon avance, parce que c'était aussi quelque chose de courant, ça avait pas l'air de lui faire particulièrement peur. Il disait que pour un premier roman et une première série, c'était pas mal, mais qu'il payait beaucoup, mais que finalement, il s'attendait à un plus gros tirage et des plus grosses ventes. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça qui ont été payés énormément et où du coup, les éditeurs ne veulent plus prendre le risque parce que les ventes n'ont pas été à la hauteur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui ? On essaie de réparer le micro, mais en attendant, on oblige les malheureux à venir.
C'est particulièrement courageux pour poser des questions.
Pour prendre un sujet dont tu avais parlé à un panel à Eastopen, est-ce qu'il y a un aspect schizophrène de la personne Aliette qui parle français, Aliette qui parle anglais, Aliette la personne, Aliette l'auteur ? Est-ce qu'il y a, il y a une distinction ou une, un lien ?
Pour ma santé mentale, j'espère qu'il y a un lien quand même. Pour tout ce qui est... schizophrénie, je sais pas, mais je sais que, effectivement, ce que j'essaie d'avoir, c'est une bulle anglophone dans laquelle je lis de la SF, j'écris de la SF, je fais de la recherche pour tout ce qui est de la SF, parce que, pour moi, ce qui est devenu énormément coûteux, c'est de passer de l'un à l'autre. J'ai fait Worldcon à Montréal, où j'ai pas arrêté de changer entre l'anglais et le français, et j'étais claquée à la fin de la journée, et c'était pas uniquement parce que je l'avais passé sur des panels et parler anglais, c'est vraiment... l'acte de changer de langue, l'acte de changer d'état d'esprit finalement. Donc je suis probablement pas la personne la mieux placée pour comprendre qu'il y a une différence ou pas. C'est sûr que j'ai une personnalité d'auteur, une personnalité qui transparaît à travers le blog, qui est pas forcément la personnalité dans la vie de tous les jours. Enfin, j'ai une personnalité de travail aussi. C'est pareil, quoi. Mais bon, c'est pas évident.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui ? Désolé, on n'aime pas l'habitude d'embêter les gens, les obliger à venir, mais là... Mais bon, c'est, le climat est sympa, donc je pense qu'il n'y a pas de souci.
C'est une question plutôt technique. Vous avez dit que vous avez commencé par être publié avec des nouvelles. Mm. C'est quelle longueur qui, dans ce genre de format qui sont publiés dans des revues et des anthologies ? C'est combien de mots ?
Ça marche. Ok. Alors le problème, c'est que je crois qu'en France on compte en caractères et en Angleterre on compte en mots. Donc je connais pas les équivalences.
Divisé par 5.
Oui, aïe, aïe. C'est un peu tôt après le déjeuner pour commencer à faire des. C'est les nouvelles, c'est jusqu'à. Alors il y a short story, novelette et novella. Novella, c'est quasiment impossible d'en placer si vous n'êtes pas un auteur déjà établi. Novellette, ça commence à être difficile, c'est entre 7500 et... je ne sais jamais si c'est 10 000 ou 12 500, je crois que ça dépend de la définition des prix. En fait, ça vient essentiellement des découpages qui sont faits pour les Hugo, les Nebula, ce genre de...
35-60 000.
Ouais, ce genre de choses, oui. Et les histoires courtes, donc ce qui se place le plus facilement, c'est entre 0 et. Enfin bon, 0, faut le faire quand même, donc c'est plutôt entre 1000 et 7500 mots, sachant que ce qu'ils appellent le sweet spot, généralement c'est dans les 4000-5000. Moi j'ai remarqué que quand je commençais et que vous n'avez pas forcément un nom à apporter au magazine ou enfin, un attrait particulier, c'est difficile de placer des. Enfin, celles que je plaçais les plus facilement étaient dans les longueurs entre 3000 et 6000 mots. Parce que ça prend pas trop de place, c'est quand même suffisamment conséquent pour avoir quelque chose de nouveau à dire, pour se sortir de la masse, mais c'est pas un risque trop important pour l'éditeur.
Mmh. Oui, donc on a fait la traduction à 15 000, 30 000, en gros, la fourchette.
C'est fois 6 ou moins 6 ?
Oui, à peu près 6 plutôt que 5, oui, d'accord.
Ouais, okay. Que, en français à l'anglais, on perd ou on gagne environ 20% pour la traduction.
C'est à peu près. Dernière question, avant qu'on. On arrête notre panel, c'était une conférence débat, c'était vraiment sympa en tout cas. Dernière question ? On a fait le tour ? Eh bien voilà, en tout cas un grand merci à Aliette de Baudard qui vient pour la première fois imaginale. J'ai comme l'intuition que dans les années à venir, on la reverra et en tout cas on va la lire avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, vous la trouvez donc une de ses nouvelles dans la revue Galaxy, là-bas, après le bar, leur stand. Vous en trouverez d'autres, Angle Mort déjà visible en revue électronique, prochain numéro de Galaxy, et puis quand même, avant tout, c'est l'occasion de rentrer directement dans son univers, de plein pied dans l'univers. Vous pouvez trouver son roman. D'ailleurs, elle arrête de boire, elle se précipite sous la bulle du livre et elle vous dédicace ses ouvrages. Merci Aliette.
Allez, allez, signez. Ouais. Merci beaucoup.
Non.